Radio Campus, Radio Béton, Radio Active en direct du festival Désir Désir.
Le magnifique clavecin de Johan Moulin sur Radio Active, Radio Béton et Radio Campus Tours. Nous sommes toujours en direct de la 27e édition du festival Désir Désir depuis la bibliothèque des studios et nous allons à présent parler cinéma avec Thomas et Solène. Thomas et Solène, vous recevez deux invités. Voilà, je vous laisse la parole.
Oui, on reçoit la réalisatrice du film Les Portes d'Arcadie qui s'a projeté ce soir au cinéma studio, Carole Grande, et Eva Massué qui est une des protagonistes du documentaire qu'on pourra découvrir ce soir. Alors peut-être la première question, pour résumer votre film, on est dans le cadre d'une association dont on a parlé tout à l'heure un petit peu en introduction avec Anthony, l'association Ardis à Paris, dans les locaux de cette association, et on pourra en revenir d'ailleurs sur cet aspect-là, et on voit se succéder tout au long de cette heure de documentaire des personnes en exil qui recherchent asile en France parce qu'elles sont persécutées dans leur pays à cause de leur sexualité, leur orientation sexuelle. Donc ma première question, c'est comment vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet-là et à filmer cette association?
Oui, alors ce projet est né d'une rencontre, comme la plupart de mes projets. Dans le cadre de recherche sur un autre film, j'ai rencontré un bénévole de l'Ardis. Donc on a longuement échangé et moi ça m'est tout de suite, enfin ce qui m'est venu à l'esprit, j'ai tout de suite pensé à Scheherazade qui doit toutes les nuits inventer une nouvelle histoire palpitante pour garder la tête sur les épaules et avoir la vie sauve. Et donc je suis allée rencontrer l'Ardis, j'ai passé 2 ans à peu près à leur côté pour comprendre tous les enjeux de cette demande d'asile très spécifique. Et donc j'ai rencontré Eva pendant ces 2 années. J'ai d'abord suivi ce quotidien au sein de l'association. Et à un moment donné, on a senti qu'il était temps et qu'on avait trouvé la relation juste pour pouvoir amener une caméra au sein de ces tout petits bureaux qui sont prêtés par la mairie du 10e arrondissement.
On va rentrer dans le film, dans le sujet du film. On voit donc une petite entre 5 et 10 personnes, je ne sais plus combien il y a de personnes exactement qui sont portraitisées, on va dire, dans le film. Comment vous les avez choisies, ces personnes? Certaines sont à visage découvert, d'autres on n'entend que leur voix, on ne voit que leurs mains ou des parties de leur corps, donc elles ont voulu rester anonymes. Comment le choix s'est opéré pour ces personnes, en fait?
Alors, c'est un choix... Il y a les personnes qui ont déjà accepté d'être filmées ou que la caméra soit présente au moment de leur entretien. Donc, c'était pas tout le monde. Mais quand même, une grande partie des personnes ont accepté au moment du tournage. Ensuite, on a tourné sur un temps assez limité, qui était sur 1 mois. Donc voilà, c'était aussi les personnes qui étaient à l'étape de l'écriture du récit quand on est venu pour faire le film. Et ensuite, il y a eu un choix au moment du montage où il fallait réussir à trouver un équilibre au sein du film entre les récits, les différentes histoires particulières qui vont s'entrecroiser. Et puis selon les étapes aussi de la procédure, parce qu'il y a des personnes qu'on a filmées et qui étaient à une étape plus avancée, mais du coup on comprend moins les enjeux. Enfin voilà, donc ça c'était très important dans le choix. Et José, qui est la seule personne dont on ne voit pas le visage, sur le coup voulait bien qu'on soit là, mais du coup rester anonyme. Et elle a vu le film par la suite en cours de montage et à ce moment-là, elle aurait aimé finalement
qu'on la voie.
Mais c'était important pour moi de montrer aussi une personne dont le visage reste anonyme pour qu'on comprenne bien quand même l'enjeu de se rendre visible dans un film à cette étape-là d'une procédure d'asile où une personne est dans une situation extrêmement fragile et sensible. Et donc accepter d'être filmé à visage découvert alors qu'on est persécuté, que sa vie est en danger dans son propre pays, qu'on vient dans un pays où on ne sait pas si on va être accueilli, c'est très courageux.
Et du coup, je rebondis, ça veut dire que vous avez beaucoup de rush?
Oui et non. Ouais. Les entretiens sont des entretiens longs qui durent parfois 3 heures. Donc on a filmé dans leur entièreté, enfin entièrement, dans leur intégralité. Mais on n'a pas multiplié non plus les rendez-vous. Donc je pense que j'avais 70 heures.
Oui, c'est pas effectivement énorme.
Et vous, Eva, du coup, vous êtes bénévole dans l'association. Quelle a été votre formation? On voit que vous allez recueillir quand même une parole très intime au fur et à mesure quand même du film. Comment on appréhende ça? Ça faisait combien de temps, du coup, que vous faisiez partie de l'association avant le tournage du film?
Alors, moi, je suis à l'ARDIS depuis 2012. Donc, quand le film a été tourné, ça devait faire 2 ans et demi que j'étais bénévole là-bas. Alors, en fait, on a une formation en interne à l'association. Donc, c'est pas du tout une formation institutionnelle ou quelle qu'elle soit. On est formé par des personnes qui suivent les demandeurs et demandeuses d'asile depuis déjà un moment. Et puis, on se forme aussi sur le terrain. On est dans une situation où on est beaucoup en binôme. Donc, on apprend, en fait, par mimétisme, entre guillemets. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'après, comme je dis toujours, on a le virus ou pas, donc on continue ou pas. Mais voilà, c'est vraiment aussi des affinités parce que c'est très. Enfin, on a un rôle très ambivalent. Enfin, je pense que ça se voit un peu dans le film. C'est-à-dire qu'on doit être dans une empathie extrême pour recueillir le récit, mais en même temps, on doit être. Quand on les prépare à aller. Enfin, passer l'entretien qui va déterminer s'ils vont avoir l'asile ou s'ils vont être rejetés. On doit aussi être dans une position très dure et très exigeante par rapport aux réponses qui sont données, parce que sinon, on sait très bien que s'ils n'ont pas un degré de détail et de personnalisation assez fort, en fait, ils vont aller vers un rejet. Voilà.
Il y a des récits très forts dans ce que vous recueillez. On sent évidemment le devoir d'écoute et évidemment aussi une bienveillance extrême qui doit être ressentie par les personnes qui viennent vous voir. Comment on s'organise face à ces récits qui peuvent être parfois très durs, parfois qui peuvent secouer, j'imagine, les personnes qui écoutent ces récits-là?
Alors, comment on s'organise? Je ne sais pas. Je pense que c'est très instinctif. Enfin, voilà, je pense que voilà, les premiers récits où il y a des violences sexuelles et physiques, c'est toujours très dur et on ne doit pas le montrer, en fait, parce que on est devant des personnes qui ont beaucoup de mal à ressentir aussi l'empathie de l'autre quelque part. C'est-à-dire que si on se met nous à pleurer alors qu'on est dans quelque chose où on doit recueillir, c'est pas possible pour eux. Parce qu'en fait, ils vont se dire « mais non, mais je peux pas aller dans ce degré de détail là, etc. » Donc on doit être quand même assez impassible pour les mettre en confiance. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments où on est touché, ils le voient, donc on doit jouer aussi ce rôle de montrer que c'est aussi ça qu'on attend d'eux. Parce que s'ils touchent la personne qu'ils ont en face d'eux à l'OFPRA, y a une partie du chemin qui est fait, en fait. Donc on leur dit, oui, là, en fait, t'es sur le bon chemin, tu donnes assez de détails et en fait, on arrive à voir les images. Et donc là, t'es vers quelque chose qui est positif.
On voit bien dans le film le processus très administratif, très descriptif que vous demandez aux personnes réfugiées. Il est nécessaire, il est primordial pour justement permettre au dossier d'avancer.
Oui. En fait, le principal motif, et Carole l'a très bien montré dans son film, puisque le film commence par ça, c'est-à-dire que le principal motif de rejet, c'est que l'OFPRA, l'institution qui valide ou non, en gros, la demande d'asile, rejette en disant que le degré de personnalisation et de détail lors de l'entretien n'a pas été suffisant pour établir l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la personne. Donc voilà. C'est vraiment la phrase type qui est donnée pour invalider en fait la demande d'asile.
Et après dans le film, Moi, je renforce aussi un peu ce trait qui est important et qui est présent dans la procédure, mais qui peut se faire sur plusieurs entretiens, alors que là, dans le film, on a assez concentré, on a un temps réduit.
Et vous avez eu des nouvelles, du coup, parce que le film a été tourné 2015-2014
Il a été tourné en 2014, il est sorti en 2015.
Et du coup, les personnes qu'on voit dans le film, du coup, ont obtenu... Vous avez eu des nouvelles ou pas?
Elles n'ont pas toutes obtenu l'asile.
Je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps. Une question. Oui, alors je ne sais pas si c'est un homonyme ou pas, mais le chef opérateur du film, je l'ai trouvé du coup, le nom m'était pas inconnu, et du coup c'est notamment le chef opérateur de Manche des Morts, notamment, enfin d'autres films. Comment vous avez travaillé avec lui, qui est, du coup il est plutôt lié à de la fiction que du documentaire, ou est-ce qu'il a commencé par le documentaire?
Il a commencé par ce film, après il a eu cette magnifique carrière qu'on lui connaît aujourd'hui.
Du coup, c'est Jonathan Rickbourg.
Jonathan Rickbourg.
C'est ça. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter. On va passer à une pause musicale, Thomas.
Moi, je voulais juste poser une dernière question sur la gestion de l'espace. On voit donc que c'est des locaux qui sont très exigus. Comment vous avez travaillé est-ce que vous avez travaillé en équipe et comment s'est organisé vraiment de manière logistique votre tournage?
Alors, en effet, on était dans des tout, tout petits bureaux.
Ça se voit,
on
était deux. Ça ne peut pas se trahir à l'écran.
On était deux, donc Jonathan à l'image et moi au son. Et on avait énormément discuté avec Jonathan pour savoir, enfin, pour réussir à trouver notre place et à comprendre comment on cadrerait la taille des plans et surtout, il fallait qu'on soit très à l'aise avec notre manière de nous présenter aux personnes qui venaient, qui arrivaient pour passer leur entretien, pour que cette intimité, en fait, devienne naturelle et acceptée, et que notre présence ne soit pas dérangeante, mais au contraire, une présence d'écoute supplémentaire. Et ça a beaucoup joué, en fait, les 10 minutes qu'on prenait pour discuter en amont avec la personne qui arrivait faisait que d'un seul coup cet espace ne nous semblait plus si petit que ça.
Merci beaucoup. Donc on rappelle, Les Portes d'Arcadie, le documentaire est projeté ce soir à 20h, donc ici même au Cinéma Studio. Merci beaucoup, mesdames.
Merci.
Eh bien, merci à nos cinéphiles et à nos invités. On va faire tout de suite une pause musicale. Nous allons écouter Efeb, Orage.
Radioactive, Radio Béton et Radio Campus en direct du Festival Désir de 16h30 à 19h.
Vois comment on pourrait passer l'hiver caché là-dedans. T'as vu le temps, y'a rien à faire. Amour, on s'en va courir toujours. Mais où le jour nous mène? Moi je m'en vais tuer le levant avant l'orage. Traîner sur des sables mouvants. Je suis comme tous les enfants de mon âge. Moi que rien mais brillant sang. À contre-courant de mon héritage. Dis à quand viendra l'orage. Dessiner ton nouveau visage. Briser ton héritage. À l'ombre de l'orage. Chaque soir, dans mon boudoir, c'est toujours la même histoire. Je ne me parle pas, y'a pas d'après. Amour, j'ai le souffle court depuis déjà des semaines. Même des centaines depuis que ce monde coule de ses larmes. Je l'ai quitté pour un instant. J'ai fait comme tous les enfants de mon âge. Manque rien mais brillant souvent. À contre-courant de mon héritage. Cet écho se propage. Et rien tourne. Ancrage sur une autre côte. Un nouveau voyage. Cet écho se propage. Et vient tourner la page. en nous soumet un vacuum. Gardons mémoire ce message, présage de pouvoir.
Rêve des songes célestes qu'on a comptés sur nos doigts. Le Far West n'est qu'à quelque part, c'est notre tour. Et comme tous les soirs, on finira quelque part. Laissons tomber nos charmes hors des murs de Notre-Dame.
Traînés sur des sables mouvants, nous sommes comme tous les enfants de nos âges. Moins que rien, mais brillons souvent à contre-courant de notre héritage. L'orage, le temps s'est écoulé,
le temps s'est écroulé.
Arracher les pages, mirage de tes cahiers, les courriers. Enfin, on s'enrage ce soir pour les prochaines années. Venant dans le sillage, paysage de ta vie retrouvée. À l'ombre de l'orage. À l'ombre de l'orage.